essentiels de décibels. Émilie Mazoyer et Marc Dolizy, spécialistes des derniers jours de la vie de Sam Cooke.
Bonsoir Marc Dolizy.
Bonsoir Amélie.
Bonsoir, bienvenue dans Décibels. Je suis ravie que vous soyez là. Marc, vous êtes journaliste, écrivain. Alors dans votre CV, on trouve par exemple la rédaction en chef de grands magazines comme VSD. Vous avez écrit sur la musique aussi. On voit que votre spectre est large, hein, de Carla Bruni à David Guetta. Là, on est ensemble pour parler de votre nouveau livre, Marc Dolizy. Ça s'appelle « La nuit de l'Amérique ». Au centre de ce livre, il y a un artiste, un grand artiste, qui s'appelle Sam Cooke. Sam Cooke, il a, selon vous, et selon d'ailleurs beaucoup de spécialistes de la musique, changé la face de la musique aux États-Unis, oui. Parce que c'est un des premiers artistes noirs américains à atteindre une popularité égale à celle d'Elvis Presley, par exemple.
Alors, il a une particularité. Il a été, il est né dans ce qu'on appelle le berceau du blues. Il est né à Clarksdale, donc dans l'État du Mississippi. Et il a été, alors, on est quand même à la fin des années 50, au début des années 60. On a beau être un siècle après la guerre de sécession, il faut savoir que le racisme est quelque chose de terrifiant.
Oui, c'est ça, on est après l'esclavage, mais on n'est pas à l'égalité.
Pas du tout, les États du Sud, d'ailleurs, l'esclavage, c'est toujours une vaste fumisterie. Il y a toujours une ségrégation terrible envers notamment tous les Afro-Américains. Mais Sam Cooke, il a une particularité, c'est que sur son premier album, il a les cheveux lissés, plaqués. Et sur le deuxième album, il a les cheveux crépus. C'est-à-dire qu'il accepte ce qu'il est, il accepte cette espèce de cette différence. Et il va être effectivement un des premiers chanteurs populaires, un des premiers chanteurs afro-américains extrêmement populaires, dont certains titres vont faire de l'ombre à ceux d'Elvis Presley au tout début des années 60.
Alors, le problème avec Sam Cooke, et qu'on n'a pas résolu encore aujourd'hui, c'est sa mort. Que s'est-il passé, Sam Cooke, en fait, donc vous racontez très bien et très vite d'ailleurs sa vie au début du livre. Petit garçon qui chante à l'église, ouais. Du gospel, une voix d'ange. Sa mue à 14 ans se passe très bien, donc il continue à avoir une voix absolument magnifique. Et puis, bah, on enchaîne, hein, premier amour, premier contrat, mariage, les premiers passages radio, etc. À 33 ans, il est assassiné en 1964. Ouais. On le retrouve mort. Dans un motel pourri.
Exactement. Alors effectivement, sa mort est quelque chose d'assez... Il y a eu énormément de théories conspirationnistes. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une dizaine de mois après la mort de l'assassinat de Kennedy. Non, on est même un an après, puisque Kennedy, c'est novembre 63, et là, on est la nuit du 10 au 11 décembre 1964. Sam Cooke avait une réputation... Il était devenu très connu, et il avait la réputation d'être un homme à femme. Et il va dans un des endroits les plus, un des restaurants les plus sélects de Hollywood à l'époque, où il y avait Sinatra, Presley, John Wayne, enfin absolument tout le Rat Pack. Et il étale 5 000 $ sur le comptoir et une jeune femme voit tout l'argent. Et à l'époque, 5 000 $,
c'est
une énorme somme. Il va laisser 1 000 $ pour rincer absolument toute la salle, et il va en rembarquer 4 000. Et la jeune fille, qui est assez jolie, va commencer à lui faire un peu de rentre-dedans. Et lui, parce que la chair est faible, et puis parce que son mariage avec son épouse est en train de battre un peu de l'aile, il va accepter de suivre cette jeune fille qui va l'amener dans un motel pourri, ce qui est assez surréaliste quand on est une star du niveau de Sam Cooke à l'époque. Et après, c'est là où les choses se gâtent. C'est-à-dire que moi, je reste sur la notion... Moi, je ne crois pas aux thèses conspirationnistes. Je pense que c'est un fait divers. Je pense que la fille qui se prostituait occasionnellement était de mèche avec la taulière, avec la gérante du motel, etc., qui devait prendre un petit peu un pourcentage sur ce que gagnaient les filles qui venaient. Je pense qu'elle a piqué les fringues de Sam Cooke avec l'argent, ce qui restait, donc 4 000 $, que lui était en train de se doucher. Il sort, il ne voit plus ça... Il était un peu saoul, il se demande où est la fille. Il faut savoir qu'il sort, excusez-moi du détail, il a juste une veste et une chaussure. Le reste, c'est le plus simple à Paris, puisque la fille est partie avec tout. Il va tambouriner à la porte de la gérante du motel, qui, prise de panique, parce qu'elle va dire au flic qu'il a enfoncé la porte, elle va lui tirer dessus à bout portant.
Trois coups.
Lui, il va tomber, et ses derniers mots « Vous m'avez tiré dessus, madame », et elle l'achève à coups de balai. Alors, évidemment... La police de Los Angeles se pointe, va mettre à peu près, il est 3h du matin, va mettre à peu près 3h à se rendre compte que le noir qui vient de se faire descendre, c'est un noir célèbre et qui s'appelle Sam Cooke, puisque la veuve de Sam Cooke sera prévenue à 6h30 du matin.
Voilà,
et l'enquête est bâclée. Ouais. La police de Los Angeles, qui est quand même assez raciste pour beaucoup de ses membres, etc., va malheureusement bâcler l'enquête. Et toutes les théories de la conspiration vont naître de cette enquête.
Ça, c'était en 1964. Alors, ce que je vous propose pour vous mettre dans l'ambiance et pour vous rendre compte de la dimension presque christique, ouais, de cet homme, Sam Cooke, de cet artiste, on va écouter ensemble une chanson qui s'appelle « Change is gonna come », « Le changement arrive ». C'est une chanson qui est synonyme d'espoir pour la communauté noire américaine quand elle sort. C'est une chanson qui est, vous le racontez dans le livre, citée par Barack Obama.
Ouais. Quand il est élu en novembre,
il
y a à peu près 500 000 personnes qui viennent acclamer son élection à Grand Park, donc au bord du lac Michigan à Chicago. Et quasiment les premiers mots de Barack Obama, ça, un changement est peut-être enfin arrivé. Ouais. Mais il faut savoir que Martin Luther King, que Sam Cooke admirait énormément, tous ses meetings jusqu'à sa mort en 68, sont précédés de « And Change is Gonna Come ». Et puis le morceau a été repris par Céline Dion, Beyoncé, énormément de gens.
Ouais.
C'est une merveille. Pour la petite anecdote, ce morceau qu'il écrit en 63 est un peu une réponse au « Blowing the Wind » de Dylan. C'est-à-dire que tout à coup, il se dit, il aimait beaucoup Dylan.
Il allait reprendre la chanson de Dylan.
Il l'a reprise d'ailleurs.
Il l'a
chanté quelques fois sur scène. Mais sa réflexion, ça va être, mais c'est incroyable que nous, noirs, ne soyons pas capables de nous défendre nous-mêmes. C'est un blanc, ouais, qu'il admire énormément, Bob Dylan, qui fait une des premières protestations, qui est Blowing the Wind, qui est écrite en 62. Et en fait, Change is Gonna Come est une réponse au morceau de Bob Dylan.
Écoutez, cette merveille. Et ensuite, on vous dira pourquoi, finalement, c'est problématique la mort de Sam Cooke et pourquoi on pourrait penser qu'il y a énormément de gens qui le voulaient mort, malheureusement. A Change is Gonna Come.
It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Sam Cook, Change is Gonna Come. Voilà, je suis sûre que même si son nom ne vous disait plus rien, la chanson, forcément, vous avez dû la croiser une fois dans votre vie. Puis si c'était la première fois, bah écoutez, je suis ravie parce que normalement, c'est une chanson qui fait énormément bien, une chanson pleine d'espoir. Donc, une chanson, Marc Dolizy, qui fait de Sam Cooke le porte-parole de la condition des Noirs américains, de ce mouvement pour les droits civiques.
Oui.
Donc, c'est politique.
C'est politique avec une particularité, c'est-à-dire que Sam Cooke était très proche de Mohamed Ali, Cassius Clay qui
est devenu Mohamed Ali.
Mohamed Ali
après sa rencontre avec Malcolm X.
Mais ouais, justement, entre Sam Cooke, il y a Malcolm X d'un côté, Martin Luther King de l'autre. Et oui, Sam Cooke trouve que Malcolm X est trop radical.
Alors pour celles et ceux qui n'ont pas révisé la civilisation américaine, en gros, le mouvement des droits des Noirs aux États-Unis, c'est soit la bagarre avec Malcolm X, soit essayer de prêcher la bonne parole, et ça, c'est Luther King.
Et justement,
les deux ont été assassinés. Hein.
Exactement, voilà. L'un en 65 et l'autre 3 ans plus tard, en 68.
Ouais.
Et un des vœux, une des envies les plus fortes de Sam Cooke, c'est d'avoir un public mélangé dans les États du Sud. C'est-à-dire qu'il veut que les Blancs et les Noirs soient ensemble dans le public.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les Noirs et les Blancs l'écoutent? Et est-ce que les Noirs et les Blancs peuvent aller ensemble?
Alors, il y a un concert en Louisiane où il refuse de monter sur scène parce que les organisateurs refusent que le public noir et le public blanc se mélangent. C'est la seule fois où il va refuser de monter sur scène. Ça va le rendre fou. C'est-à-dire qu'il va se dire, c'est pas possible, je ne monte. Alors que c'était un type qui adorait la scène.
Oui.
Mais il était beaucoup plus proche de Martin Luther King, qui d'ailleurs a eu son prix Nobel de la paix en 1964, la même année, l'année de la mort de Cooke. Il en était proche parce qu'il se souvient, il aimait beaucoup les prêches de Martin Luther King, notamment le prêche Drum Major, qui était celui qui avait été lu à la mort aux obsèques de Martin Luther King, qui disait que Martin Luther King, contrairement à Malcolm X, disait il faut défendre toutes les couleurs. Il faut défendre les Noirs, il faut défendre les Indiens, mais il faut défendre aussi les Blancs qui sont pauvres et qui sont à la marge et qui sont délaissés. Donc ça, c'était un discours qui était beaucoup plus rassembleur et qui correspondait beaucoup plus à l'idée que Sam Cooke se faisait de la musique. Et d'ailleurs, quand on regarde la musique de Sam Cooke, il naît dans le berceau du blues.
Et du Ku Klux Klan.
Et du Ku Klux Klan, il chante des gospels. Mais il est aussi un des premiers chanteurs noirs. Alors on dit que c'est un des inventeurs de la soul music, c'est vrai.
Ouais.
Mais dans les années 50, avant A Change Is Gonna Come, etc., qui pour moi est un morceau à part, sa musique, c'est à la fois une musique un peu pop et un peu rhythm and blues.
Ouais.
Donc il est entre les deux, il veut séduire, en tout cas il veut aller à la conquête et rassembler deux publics qui sont a priori... qui sont pas prêts de se rassembler. Elvis y était arrivé. Faut jamais oublier qu'Elvis avait été aussi élevé à Tupelo, et ensuite à Memphis, il avait été élevé dans le blues et le gospel. Faut jamais oublier ça. Faut rendre ça aussi à Elvis.
Alors, on n'a pas encore parlé de ce qu'en pensait le gouvernement américain, le FBI, etc. Dans le livre, vous racontez, Marc Dolizy, que dans certains documents du FBI, donc qui est un service de renseignement intérieur, il est décrit, Sam Cooke, comme un Negro Recording Star.
Oui.
Voilà. Star de la musique nègre. Il dit, on lit aussi toute une série de questions que le FBI se pose sur Sam Cooke. Ça va de...
Est-ce qu'il est homosexuel?
Voilà.
Est-ce qu'il trompe sa femme? Est-ce que sa femme le trompe?
S'est-il rendu en URSS? À Cuba? Quels sont ses vices? Alcool, drogue, dette de jeu? Alors vous faites comme ça cette énumération, c'est très 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 angoissant, parce qu'on se dit vraiment, il était considéré comme un ennemi de la tranquillité nationale, la tranquillité étant que les Noirs et les Blancs ne puissent pas se blairer, définitivement.
Alors, en fait, tout vient de Sam Cooke, avait été invité par Mohamed Ali à un combat célèbre à Miami au printemps 1964.
Okay, combat de boxe.
Un combat de boxe. Où d'ailleurs, face à Sonny Liston, où Mohamed Ali va écraser celui qu'il appelle le vieil ours, Sonny Liston, il va gagner. Et il se passe après une réunion, Mohamed Ali qui va organiser ça, il va y avoir une réunion dans un hôtel de Miami, où il y aura des gens de National Islam, mouvement radical
de Malcolm
noir,
X,
etc., et où il y aura Malcolm X. Et à partir du moment où cette rencontre a lieu dans un hôtel de Miami avec Mohamed Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown, qui est un joueur de football américain très célèbre, Malcolm X, immédiatement, est sur écoute du FBI. Tout de suite.
Parce qu'il
fréquente Malcolm X. Mohamed Ali, il était déjà. À partir du moment où il suit Malcolm X et il adhère à Nation of Islam,
il était déjà
sous surveillance. Sam Cooke n'était pas particulièrement sous surveillance avant, mais à partir du moment où il fréquente Malcolm X, etc., ça y est, il est sur les radars du FBI. Il est considéré comme ce qu'on appelle une personne of interest, ouais. Mais pas au même niveau, bien entendu, que Malcolm X.
Des années plus tard, John Lennon le sera aussi.
Oui.
Mais n'empêche que c'est partant de ces faits-là, du fait qu'il était surveillé par le FBI et qu'il y avait tout un tas de gens aux États-Unis qui avaient tout intérêt à ce que... les Noirs et les Blancs ne s'entendent pas, continuent à ne pas s'entendre. C'est pour ça qu'il y a cette théorie qui dit qu'en fait, le crime crapuleux que vous nous avez raconté tout à l'heure, à savoir la prostituée et la patronne du motel qui se mettent d'accord pour dépouiller la star et qui lui tirent dessus, on dit, non, c'est pas ça. C'est un assassinat, c'est commandité, les ficelles sont tirées. Et alors là, il y a effectivement tout un tas de théories que vous égrenez d'ailleurs.
Oui, mais
vous en parlez dans le livre. Vous n'y croyez pas.
Absolument pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que personne n'a essayé d'assassiner Bob Dylan, qui prend la défense des Afro-Américains et qui est blanc, qui pourrait donc passer aux yeux des blancs suprémacistes, il pourrait passer pour un traître.
Oui, c'est vrai.
Et Blowing in the Wind, c'est la défense des Afro-Américains. D'ailleurs, un morceau sublime, parole sublime. Personne n'a menacé Bob Dylan à cette époque. Moi, je pense qu'on est dans une Amérique qui est totalement paranoïaque. Il y a eu l'assassinat de Kennedy en novembre, juste avant. Ne pas oublier aussi que l'été 1964 est un été particulier, puisque début juillet 1964, ce qu'on appelle les Civil Rights Act sont promulgués par Lyndon Johnson en présence de Martin Luther King. Et ça va réveiller le Ku Klux Klan, qui était un peu assoupi, vaguement assoupi. Et qui va faire des massacres absolument abominables d'étudiants autant blancs que noirs dans l'état du Mississippi. Non, j'y crois pas. En fait, il y a une phrase de Mohamed Ali qui, pour moi, est quasiment une clé. Il dit, si ça avait été Elvis Presley ou Willie Nelson, l'enquête aurait été bien faite. Et là, l'enquête a été bâclée en 3 jours. En plus, enquête sur laquelle on ne retient que le témoignage de la gérante du motel et de la jeune fille qui se prostituait occasionnellement. Quand vous regardez, moi j'ai regardé les PV, c'est surréaliste.
C'est bâclé. Ils
s'en foutaient. Pour eux, c'était... En plus, les premières heures, ils ne savent pas que c'est Sam Cooke qui s'est fait descendre.
Ouais.
Il y a des photos terribles que j'ai retrouvées. Vous voyez comment ils sortent le corps de Sam Cooke du motel. En fait, sur un diable.
Il est tout nu en plus. Il est à moitié nu, il a juste une veste, etc.
Ouais. En fait, ils lui mettent une couverture de déménageur dessus et ils le sortent à la verticale sur un diable de déménageur. Les photos existent.
Wow.
C'est-à-dire que on voit là l'idée qu'il se faisait d'un noir qui venait de se faire descendre dans un quartier un peu populaire.
Ouais. Heureusement, il y a des théories du complot rigolotes dans le livre. On parlera notamment de l'extraterrestre de Roswell. Ouais. Je vous renvoie à la page 187, vous allez rigoler. Non mais voilà, parce qu'effectivement, le sujet est lourd. L'artiste était sublime, donc évidemment, tout ça est très triste. Mais voilà, le livre est en 3 parties. Hein. Il y a avant le meurtre de Sam Cooke, il y a la nuit de son meurtre, et puis il y a après. Alors, avant de parler justement de son héritage et de pourquoi il est pertinent et important de continuer à parler de Sam Cooke aujourd'hui et de l'écouter, justement, on va mettre en pratique et écouter. Alors ça, c'est ma petite chanson préférée de Sam Cooke. Elle s'appelle What a Wonderful World, mais c'est pas Louis Armstrong, c'est Sam Cooke, et c'est très beau, et ça a la fraîcheur des années lycée et des premières amours.
Ah,
hein.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was.
an A student, baby. I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Il a laissé un grand vide, évidemment, à sa mort, Sam Cooke. Ceci dit, toute la dernière partie du livre, qui s'appelle Après,
oui.
Après sa mort, donc, il y a des moments comme ça. En 1986, il rentre au Rock'n'Roll Hall of Fame, oui. Notre Sam Cooke. En 1994, son étoile sur le Walk of Fame, oui. D'Hollywood. En 2008, Barack Obama, qu'il cite dans, oui. Un discours. Il est toujours là. Est-ce que les jeunes américains, les jeunes noirs américains, fans de rap, connaissent Sam Cooke? Est-ce que sa mémoire est célébrée aux États-Unis? C'est vrai qu'en France, il fait pas partie des grands artistes noirs américains, non. Militants des droits civiques qu'on peut connaître. On connaît mieux Aretha, par exemple, Aretha, oui. Franklin ou d'autres. Est-ce qu'aux États-Unis, sa mémoire, alors, est entretenue?
Oui, elle est entretenue parce qu'il y a une filiation. C'est-à-dire que l'avant-dernier album qui s'appelle Nightbeat de Sam Cooke, si vous regardez la pochette, il y a marqué Sam Cooke et Mr. Soul. C'est une des premières fois où on voit ce mot
le
apparaître,
mot soul.
Le mot soul. Et la soul, qui est la musique de l'âme, donc musique qui est un héritage direct du blues, va nous amener au funk, va nous amener aussi à Aretha Franklin, à Marvin Gaye, tous les grands chanteurs, artistes noirs, il y a une filiation. Alors, en même temps, Sam Cooke, il ne vient pas de nulle part. Il y a eu le gospel, il y a eu le blues. Et en plus, il naît à Clarksdale, qui est... c'est un peu loin du delta du Mississippi, mais on estime que John Lee Hooker, Muddy Waters, tous ces bluesmen qui sont natifs de Clarksdale, c'est le blues du delta, c'est,
ouais.
Le berceau.
Ouais.
Il ne vient pas de nulle part lui-même, mais il a cette chance... Je veux dire, et ce courage d'être le premier à essayer de faire un crossover entre différents publics.
Ouais.
Et entre le public noir et le public blanc. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça ouvre la voie à tout ce qui va suivre derrière, même si, attention, tout n'a pas été réglé derrière. N'oublions jamais qu'un autre disque très important pour moi, c'est What's Going On de Marvin Gaye en 1971. Autre année terrible, guerre du Vietnam. Chaque morceau de cet album parle des souffrances des gamins qu'on envoie là-bas. Il faut jamais l'oublier, même si ça semble poétique. Mais sans Sam Cooke, je ne sais pas s'il y aurait eu tout ce qu'il y a eu derrière, ou ça aurait peut-être mis un peu plus de temps. Et puis bon, il a une voix sublime, il faut jamais oublier qu'il composait, qu'il écrivait ses paroles, et il a une voix merveilleuse.
Ça méritait bien un livre. Marc Dolizy, merci pour cette nuit de l'Amérique aux éditions Éric Bonnier, la collection Encre Rock, fort recommandable. La nuit de l'Amérique, donc, et merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Merci.
Essentiel de Décibel, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France. Ce soir, Boris écoute Ici, parce que Ici, c'est sa radio locale. Et surtout, le soir, c'est camping, musique et bonne humeur. Le DJ est en tong, les chanteurs en bermuda et les chanteuses en pareo.
et Saint-Maurice, il adore. 4 heures d'ambiance, vacances et de tubes de l'été. Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission qui donne des coups de soleil. Écoutez ici, tous les soirs de l'été, à partir de 21h.
Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Rendez-vous le 22 août à Monaco pour la grande fête de présentation des coureurs, la première étape contre la montre et de nombreuses animations. Et venez vivre la mythique course sur le bord de la route et faire le plein d'émotions. La Vuelta, un événement ici du 22 août au 13 septembre.
Ici, les essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Alex Montembeau.
Bienvenue dans Décibel.
Bonsoir, merci beaucoup.
Je suis très très contente de vous rencontrer, mais il faut que je démarre, Alex, avec une confession.
Ah oui?
Vous allez dire que je suis folle comme un lapin, peut-être, mais en fait, ça fait des mois que je vous écoute et que je pense que vous êtes canadien.
Ah bon?
Oui.
Ah ben c'est un compliment.
Alors pourquoi est-ce que... Parce que là, évidemment, les gens chez eux font... Vous êtes du Maine-et-Loire, donc ça n'a rien à voir, Alex, entre Nantes et Angers, voilà. Mais en fait, comme vous vous appelez Montembeau et qu'on vous a découvert grâce au rôle de Marie-Jeanne dans Starmania, qui lui-même avait été chanté par Fabienne Thibault, alors moi, Montembeau, Thibault, Starmania... Il est canadien.
Mais franchement, c'est pas idiot parce qu'il y a une partie des Montembeau qui vient de Canada, étymologiquement. Enfin voilà, bon. si on retrace l'arbre généalogique. Mais non, moi je viens bien du Maine-et-Loire.
C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, tu maintenant ça va mieux. Il fallait que je l'avoue parce que je me sentais bête. C'est quoi, évidemment, on prépare un peu l'émission, un peu, hein. Vous me connaissez. Et donc je lis la biographie d'Alex et là je fais ah mais pas du tout de Québec en fait. Non. Bon, pas du tout. C'est gentil de dire que étymologiquement, il y a peut-être une partie de la famille.
Non, c'est vraiment pas idiot, quoi.
Alex, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. On va parler évidemment de votre premier album. Mais avant, dire qu'on vous a découvert donc dans ce rôle de Marie-Jeanne qui avait été merveilleusement chantée par Fabienne Thibault pour le souvenir, pour le plaisir.
Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui.
Alex Montembeau.
Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit viens prendre un café et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré.
Très beau guitare-voix que vous nous avez offert ici à la Maison de la Radio pour France Culture, France Musique pardon, qui faisait une spéciale sur les comédies musicales. Alors, les comédies musicales, cette comédie musicale-là, Starmania, c'est comme ça qu'on vous a découvert. Est-ce que c'était un rêve d'être dans une comédie musicale, particulièrement Starmania? Parce que c'est pas de votre génération, hein, vous avez 26 ans, ça vient d'où?
Ça vient d'où? Bah, mes parents écoutaient beaucoup Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, voilà toute cette clique de chanteurs et chanteuses. Donc j'ai un peu grandi avec la musique quand même de cette époque-là. Ma mère avait l'album de Starmania à la maison, l'album bleu, je m'en souviens très bien.
Oui.
Je l'ai récupéré avant de savoir même que j'allais jouer dans Starmania. Donc il y a quand même une petite histoire. Ça vient pas de nulle part. Et en fait, ça n'a jamais été un rêve dans le sens où j'ai jamais osé m'imaginer faire partie d'un spectacle comme ça. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Je suis arrivée à Paris dans l'espoir de développer mon projet personnel.
Donc j'ai parce que vous êtes auteur, compositeur
aussi,
et chanteur.
C'est ça.
Donc oui.
Bah, j'avais une volonté en fait de développer mon projet, de défendre mes chansons personnelles. Et puis en fait très rapidement j'ai rencontré des différents directeurs artistiques, des directeurs de labels, dont Raphaël Anverger, le fils de France Gall, Michel Berger. Et de fil en aiguille, voilà, il m'a proposé en fait une place pour le rôle de Marie-Jeanne.
Alors, quand on vous propose cette place-là, qu'est-ce qui se passe? Vous hésitez? Vous foncez? Est-ce que vous êtes du genre à vous précipiter?
Franchement, je me souviens assez précisément le moment où j'ai reçu l'appel de Raphaël.
Ah, racontez-moi.
Bah, en fait, j'ai explosé de rire, mais de nerfs, en fait. Enfin, je voulais pas y croire. Donc, j'ai appelé mon père dans la foulée, j'ai appelé mes parents. Je crois que j'ai lâché un gros rire nerveux, parce que ça me paraissait assez irréel, en fait, de m'imaginer faire partie de ça. Moi, je venais d'arriver à Paris, c'était un peu l'effervescence, déjà, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est au-delà d'un rêve. C'est au-delà d'un rêve.
Donc,
Donc, Alex, les informations que nous avons jusqu'à présent. Vous êtes du Maine-et-Loire et pas du Québec. Mmh. Vous avez été biberonné à la grande variété française et vous allez donc sortir L'envie folle, cette chanson que vous portez en vous depuis longtemps ou alors qui vont un petit peu nous donner une idée de qui vous êtes là après cette expérience Starmania et le fait d'avoir fait le tour des Zéniths de France.
C'est un petit peu tout ça mélangé. L'envie folle, c'est le titre de la première chanson de mon projet. C'est une chanson que j'ai écrite avant Starmania. Donc c'est une chanson que je porte depuis un moment et j'avais envie qu'elle fasse partie de ce projet puisque elle représente un peu ma façon d'écrire que j'ai depuis un petit moment et puis à la fois des chansons plus récentes, plus intimes comme Chez moi, Vanishoko ou avec l'expérience Starmania justement j'ai appris à mettre des mots plus précis sur mes sentiments, mes émotions, mon rapport à ma famille, etc., mon identité, chose que j'étais pas forcément capable de faire il y a quelques années. Donc il y a un
vous étiez un bébé aussi.
Facettes.
Il y a ça. Non, mais le fait d'avancer en âge aussi. Il y a l'expérience de Starmania, mais aussi, juste bêtement le fait de grandir, quoi. Mm-hmm.
Le fait de grandir. L'envie folle, c'est un projet, sur l'émancipation quelque part. Ces quatre dernières années, je suis partie de mon Maine-et-Loire pour arriver à Paris. Il s'est passé plein de choses. Je crois que j'avais envie de raconter avec simplicité, ce que ça peut être le parcours de quelqu'un qui s'envole, quoi, de ses propres ailes.
Ah, c'est beau. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, mais on n'a pas parlé des instruments. Vous jouez de la guitare, vous jouez mm-hmm. du piano. Vous avez grandi dans un environnement extrêmement musical. Comment vous composez ?
C'est très variable. Souvent c'est au piano quand même.
Ah ouais.
C'est le premier instrument que j'ai appris, comment dire. J'ai commencé à 5-6 ans, école de musique puis conservatoire, parcours classique, puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas avec moi le parcours académique. Donc
et ça passe du côté obscur.
Je suis passée du côté obscur. Donc j'ai fait des musiques actuelles, j'ai fait du jazz et en fait, je passais surtout énormément de temps à casser les oreilles de ma famille, à jouer dans le salon des heures et des heures durant, mais tout sauf ce qu'on me demandait de travailler au conservatoire. Donc j'ai commencé à écrire. Ça a été vraiment avec le piano que j'ai établi un vrai rapport. C'est là où j'ai l'impression que je peux me montrer vulnérable aussi, exprimer mes émotions. C'est sur le piano. La guitare, c'est un rapport un peu différent. Je raconte les choses, mais ça vient dans un second temps, souvent.
Et la guitare, vous en jouez sur scène, vous vous accompagnez ?
Oui.
Ah oui, c'est ça aussi. Mmh. Donc,
ça me permet d'avoir un rapport différent avec le public, puisque je suis debout, je suis debout en face du public, et j'aime bien cette proximité que j'ai davantage avec la guitare. Là où le piano, c'est plus ma petite bulle de confort, quoi.
On va écouter une chanson qui s'appelle « Chez moi », et qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de regarder par le trou de la serrure et voir comment ça se passe chez les Montembeaux. C'est une chanson, et même depuis qu'on a commencé à parler, là, on se rend compte à quel point la famille est importante pour vous. Il y a vos parents, mais il y a aussi vos grands-parents, mais il y a aussi vos sœurs. Enfin voilà, c'est vraiment un de vos piliers, votre famille.
Ouais, évidemment. Ça m'a forgé. Pendant longtemps, j'ai fait de la musique avec deux de mes sœurs. On avait un groupe ensemble, on chantait à trois voix. Donc, notre parent nous aidait à faire les arrangements, on nous faisait écouter à notre maman qui nous donnait son avis. Enfin, on a vraiment grandi dans la musique, dans cet univers-là. Ça a été notre façon de communiquer depuis très jeune.
Ils l'ont entendu, évidemment, cette chanson avant tout le monde. Nous, on va l'écouter maintenant. Juste avant, j'aimerais savoir qu'ont-ils dit quand ils l'ont entendu pour la première fois chez moi.
Je crois que tout est dit dans la chanson. On est des gens pudiques, donc un sourire un peu timide et un câlin, et voilà.
Ça va vous faire l'effet d'un câlin, à vous aussi. Chez moi, Alex Montembeau est l'invité de Décibel.
Chez moi, on ne parle pas, c'est pas pour autant qu'on se comprend pas. On se dit des choses en passant les plats, dans nos gestes qui nous trahissent parfois. Chez moi, on pleure sous les draps, on sèche nos larmes d'un revers de bras. Aucune trace de peur qu'on nous voit. On s'entend mieux quand on fait semblant que ça va. On se parle. Moi j'en ai cherché des mots pour guérir. Chez moi on s'aime mais on ne sait pas se le dire. Piano noir est toujours au salon. Les assiettes à fleurs, les CD de Samson. Chez moi, ça restera à jamais ma maison.
Tendresse, oh là là, puis vous chantez comme un ange, hein, bravo, Alex Montembeau. À la fin de la chanson, vous parlez des CD de Samson, puisque vous nous avez parlé tout à l'heure de vos influences Berger, Gall et compagnie, mais Samson évidemment. C'est une artiste qui est importante pour vous, Véronique Sanson?
Vraiment, elle m'a marquée. Je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans quand je l'ai découverte, avec son album Plusieurs Lunes, un album assez récent.
Ah, c'est drôle, mais oui.
Et en fait, j'ai découvert...
Parce qu'il sortait à ce moment-là.
Tout le reste, il sortait à ce moment-là.
Ah, mais oui.
Et donc, ma mère l'a acheté, elle l'a mis dans la voiture. Et là, j'ai découvert une voix que je n'avais jamais entendue, une émotion, une sensibilité. Et j'étais jeune et ça m'a vraiment marquée. Et donc, j'ai écouté tous ses autres albums. Je pense que je connais toute sa discographie par cœur. Elle m'a vraiment accompagnée dans toute ma vie, quoi, tout mon parcours de musicien.
Et 15 ans plus tard, petit musicien est devenu grand et va faire les premières parties de Véronique Sanson.
Et oui, je l'ai appris hier. Merci.
Waouh, la fameuse tournée « J'ai eu envie de vous revoir » Véronique Sanson. Ici est d'ailleurs la fière radio partenaire. Et alors, vous allez ouvrir pour Véro, quoi.
Ouais, pour Véro. Wow. C'est fou. Je l'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai pas placé dans ma chanson.
C'est ça.
Je vous jure.
Alex Montembeau, on peut aussi parler de coup de cœur. Je me souviens la première fois que j'ai entendu votre voix, j'étais avec ma fille, Maya, dans les tribunes de Bercy, au concert de Clara Luciani, et c'était fou. Avec Clara pour Ce Monde et Stone, c'était en janvier 2023, donc ça va faire bientôt 3 ans. Elle a eu un coup de cœur, Clara, pour votre voix, votre musique. Elle décrit votre voix, elle dit c'est comme une comète, quoi, ça passe une fois tous les 100 ans. Ça vous fait quoi ce genre de soutien, Alex?
Ça m'émeut vraiment, ça me touche vraiment beaucoup, et c'est vrai que c'est un cadeau qu'elle m'a fait, et ce cadeau qu'elle m'a fait, c'est aussi comme les comètes, c'est assez rare de vivre des moments comme ça. Je me serais jamais imaginé chanter avec une des artistes que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup écouté Clara Luciani avant de la rencontrer, en fait.
Ouais.
Et donc c'était un peu comme un rêve. Je vis des rêves après d'autres rêves. Clara Luciani, puis là les premières parties de Véronique Sanson. C'est un rêve éveillé que je vis depuis quelques années, et c'est vrai que le Bercy, je m'en souviendrai très longtemps, je pense.
Et ben moi aussi, parce que vous dites qu'elle vous a fait un cadeau, mais à nous aussi, son public, elle a fait un cadeau parce qu'elle nous a dit voilà, là vous pouvez aller écouter. Là, il y a quelque chose qui se passe, Alex Montembeau, et c'est vrai. Alors, L'envie folle, donc cette chanson, c'est plus qu'un EP, mais c'est moins qu'un album, c'est une espèce de format un peu hybride. C'est parce que vous vouliez sortir tout de suite quelque chose?
Ben alors justement, j'avais envie de prendre mon temps et pour ça, sortir un album, je pense que ça m'aurait demandé de prendre plus de temps pour réfléchir, pour bien faire les choses. Et je crois que les entre-deux, ça me définit bien. le côté hybride, voilà, que j'essaie d'injecter dans ma musique, d'avoir à la fois de l'organique et à la fois de l'électronique. Voilà, quand je parle de Vanille Choco et mon identité, je raconte que je suis un peu entre les deux ou alors ni l'un ni l'autre. Et je crois que j'avais envie de sortir un format aussi qui est pas totalement qui est pas vraiment conventionnel quoi.
C'est un disque non binaire.
On peut dire
il veut pas le disque. Est-ce que tu es un EP ou est-ce que tu es un album? Eh bien débrouille-toi, j'ai 7 chansons.
Voilà. Et ce sera comme ça. Non mais j'avais envie de prendre le temps avec Starmania, c'est vrai qu'il m'a fallu un peu de temps pour revenir à la réalité, remettre les pieds sur terre, renouer aussi avec mon entourage, retrouver une vie à peu près normale puisque c'était génial Starmania comme expérience et à la fois c'est voilà un rouleau compresseur qui m'est passé dessus.
Ça doit bouffer une énergie folle. Ah
ouais. Mais c'est ce qui fait la magie aussi de l'expérience, c'est que c'était tellement fou, tellement intense dans tous les sens du terme que ça en fait une expérience inoubliable. Mais voilà, j'ai eu besoin de reconnecter et pour ça sortir un album, je pense que il m'aurait fallu 3 ans, 4 ans pour m'en remettre.
Ah ouais non, nous on voulait pas attendre.
Et moi non plus.
Ça c'est sûr. Vous bossez en solitaire ou vous avez un gang qui travaille avec vous?
Encore une fois un peu des deux. Ce serait trop facile d'avoir une réponse claire.
J'aime bien. Allez, on y va. Rentrons dans les complications, dans les méandres créatifs d'Alex Montembeau.
Bah, j'aime bien toujours initier l'écriture et la composition seule. Ça me permet d'être plus authentique, au plus proche aussi de mes émotions, de ce que j'ai envie de raconter. Et puis voilà, souvent, au bout d'un moment, si c'est pas du one shot, je vais un peu bloquer pour aller au bout d'un texte, trouver les mots justes. Et là, je vais m'entourer un petit peu. Je m'entoure de Séverin, avec qui je collabore énormément. C'est mon éditeur. C'est mon associé aussi, avec qui voilà, je produis en partie mon projet. Et il m'aide parfois sur certains bouts de texte ou certains bouts de mélodie quand je bloque. Je me suis entourée de Fiskara aussi, Marc, qui m'a aidée sur des textes, notamment sur À l'autre bout du tel. Je me suis entourée de Sage, donc, qui collabore avec Clara Luciani sur la production de ses disques. On travaille plus la musique ensemble. Donc voilà, j'essaie de prendre un petit peu à droite à gauche, de m'entourer pour compléter, on va dire.
La chanson Vanille Choco, c'est évidemment celle qu'on va écouter d'ici quelques minutes. Avant qu'on l'écoute, vous l'avez mise en avant, cette chanson. Il y a même un clip. Enfin voilà, c'est une chanson qui est importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire?
Bah, c'est une chanson que j'aurais jamais pensé réussir à écrire. Alors, je sais pas trop comment expliquer ça, mais moi, je suis donc non-binaire. Ça fait 8-9 ans à peu près que je suis raccord avec mon identité et que je vis ça pleinement. Mais je pensais ne jamais avoir envie d'en parler ou ne jamais avoir envie d'en faire un sujet, en fait.
Oui, c'est pas parce qu'on le vit que c'est un sujet de chanson, effectivement.
Bah, ouais. Voilà, en fait, dans mon entourage, etc., évidemment que j'ai eu à avoir des discussions, entre guillemets, pour essayer d'expliquer. Pour qu'on me considère ou qu'on me genre comme j'ai besoin qu'on me genre, à savoir au masculin. Et en fait, assez récemment, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et comme je vous disais tout à l'heure, notamment avec l'expérience Starmania, je crois que j'ai eu envie / besoin de raconter avec précision les choses pour créer de la proximité aussi avec les personnes qui m'écoutent. Et j'avais l'impression que si je ne mettais pas des mots là-dessus, ça laissait encore peut-être une barrière pour essayer de me comprendre un peu mieux et de connecter en fait avec l'entourage musical.
Et puis petit bonus, ça donne aussi à entendre un témoignage d'une personne non binaire à qui, en l'occurrence en tant que groupe social, on tend pas beaucoup le micro.
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et en temps normal, je pense que j'aurais pas forcé la main pour prendre le micro.
Ouais.
Prendre le micro justement, c'est pas tellement mon tempérament. Et en fait, j'avais envie de le dire avec simplicité. Moi, je reproche rien à personne. Je suis pas là pour faire la morale ou pour revendiquer quoi que ce soit. Et je pense que le fait de le dire simplement, moi, je me sens comme ça. Ouais. Personne ne peut rien dire contre ça, puisque c'est comme je me sens, quoi.
Ouais. Et peut-être même que ça file un coup de main à les petits jeunes.
J'espère.
Hein?
C'est le but aussi, évidemment, d'essayer de donner confiance aux personnes qui qui sont peut-être moins bien entourés que ce que j'ai eu la chance d'être entourée.
Ouais, dire c'est possible. C'est marrant parce que là, dans la construction de l'émission, juste après, on écoutera David Bowie. Et très, très souvent, j'ai entendu, moi, des témoignages de gens quand ils ont vu David Bowie à la télé en Angleterre à Top of the Pops dans les années 60 et qu'ils ont vu un gag du rouge à lèvres. Et ils ont dit, c'est possible, on a le droit. Et ça, ça fait un bien fou, en fait. Ouais. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, la libération des esprits par l'art, quoi.
Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on manque toujours de représentation. C'est une évidence que la musique et l'art de manière générale, c'est un levier indispensable pour justement essayer de normaliser toutes les identités qui existent, en fait.
Ça vous rend heureux de sortir L'Envie Folle le 7 novembre prochain?
Ouais. Je suis sur ex, pour tout vous dire.
Il faut attendre encore un petit peu, encore un petit mois, un gros mois.
Ouais.
Un gros mois. Moi aussi, j'ai hâte. 7 chansons d'Alex Montembeau qui sortiront le 7 novembre. L'Envie Folle. Écoutons Vanille Choco. Et merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci.
À bientôt.
Quand j'étais petit, je jouais au foot avec les garçons du coin. C'était moi le meilleur au shoot, ça faisait peur aux gardiens. C'était bien. Je riais beaucoup, je parlais fort pour cacher mes soucis. Les habits tirant sur les formes des endroits précis. J'avais pas envie d'être une fille.
Déjà ça, et c'est déjà vachement bien. Alex Montembeau, Vanille Choco.
Les essentiels de Décibel. Une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France.
Votre été, votre radio.
Ici.
forse sei tu.
Pas très cher, un like, un commentaire. On se donne, on se montre, on balance tout de nous. Et l'on dit qu'on est contre en appuyant sur pour. Toutes les occasions sont bonnes, sa détresse ou son chien. Est-ce qu'on n'est plus personne si on ne poste rien? On voudrait devenir des héros, héros de notre temps. On ne fait pourtant que des photos de l'instant. Dis-moi, est-ce qu'on est vraiment beau en solo sur l'écran? Dis-moi surtout s'il nous faut ce grand braquage des sentiments. Ce grand braquage des sentiments. Sur les réseaux, les fruits de nos égos. On affiche son bonheur, on partage sa douleur. On évoque au passage ce parti en voyage. Un immense déballage de slogans et d'images. Toutes les occasions sont bonnes. Sa détresse ou son chien. Est-ce qu'on n'aime plus personne si on ne poste rien? On voudrait devenir des héros, héros de notre temps. On ne fait pourtant que des photos de l'instant. Dis-moi, est-ce qu'on est vraiment beau en solo sur l'écran? Dis-moi surtout s'il nous faut ce grand braquage des sentiments. Est-ce qu'on ne serait pas mieux jardin, laisser vibrer sa joie chagrin, on serait plus heureux à sauter dans un train, laisser vibrer sa voix, sauter sur le chemin. On voudrait devenir des héros, héros de notre temps. On ne fait pourtant que des photos de l'instant. Est-ce que ça fait de nous des héros, héros sur l'écran? Dis-moi surtout s'il nous faut ce grand braquage des sentiments.
Est-ce que ça fait de nous des héros,
ce grand braquage
des héros? Est-ce que ça fait de nous des héros,
des sentiments? Est-ce que ça fait de nous des héros? Est-ce que ça fait de nous des héros? Héros! Est-ce que ça fait de nous des héros?
Ici,
vous écoutez Ici.
Tonight.